Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons de féminisme en contexte islamique, mais au sein de la République, sous la voûte commune de la laïcité. Nous parlons de l'ouvrage de Bouchra Azouz, elle-même présidente des ateliers du féminisme populaire, réalisatrice, documentaliste, auteur, écrivain, essayiste. Voilà, c'est avec tous ces titres-là que je reçois Bouchra Azouz, qui nous fait l'amitié de venir. Bonjour.
Bonjour Alain, bonjour aux auditeurs.
Alors, vous avez votre dernier ouvrage, parle de fille de daronne et fière de l'être. Vous nous expliquerez d'emblée qu'est-ce que vous entendez par daronne. Il y a un début d'explication dans les toutes premières pages de l'ouvrage, mais je vous laisse à vous la primeur de l'explication.
Ben, daronne, c'est un peu comme ça qu'on a appelé nos mamans dans les quartiers. Je pense qu'il y a à la fois beaucoup de pudeur, c'est-à-dire qu'on dit pas maman, parce que maman, c'est très affectueux, c'est déjà commencé à se dévoiler dans l'espace public, donc à l'extérieur, on appelle nos mamans les daronnes. Et en fait, c'est presque un terme sociologique, j'ai envie de dire, et moi je l'explore de cette manière-là, qui est la représentation des premières femmes immigrées que sont nos mères et qui ont grandi en même temps que sont nés nos quartiers.
Alors, en réalité, c'est une féminisation, c'est au féminin de daron, et qui lui-même est une contraction entre damoiseau et baron. Donc, il y a une touche comme ça, à la fois de noblesse et de raffinement au niveau du mot, et que vous l'avez, pas vous-même, mais en tout cas votre génération, et vous êtes jeune, vous l'avez adapté aux mamans, à la fois par pudeur, mais aussi un terme affectif, mais vous ne dites pas directement « maman ».
Oui, c'est exactement ça. Je pense que, d'ailleurs, le mot « daronne » renferme un peu toute la complexité de notre construction, à la fois issue de l'immigration, issue des quartiers populaires, et puis cette première génération citoyen en devenir. Donc, il y a une vraie complexité. C'est pas simplement un terme qu'on a exhumé comme ça de l'argot français, mais derrière, il y a une vraie... Quand on creuse, il y a des réalités sociales, sociétales, qu'on peut découvrir en allant disséquer ce mot, ce qu'il représente dans les quartiers populaires.
Oui, même si le fait islamique n'épuise pas les questions des quartiers dits populaires ou de l'immigration, en tout cas, ça se s'entrecoupe. Et la notion de la mère, de la présence de la mère, conformément à ce hadith, aphorisme, maxime, parole prophétique, que le paradis est au pied des mères, ça a un impact réel dans la psyché des jeunes gens et des jeunes demoiselles que vous avez connues.
Oui, c'est vrai.
Et dans votre propre famille.
Oui, oui, oui. De toute façon, je pense qu'effectivement, c'est très culturel. Il y a à la fois une dimension spirituelle qu'on ne maîtrise pas forcément, d'ailleurs. Et puis, une dimension qui est très, je dirais, factuelle, c'est que nos mères, elles sont là pendant que nos pères vont travailler. Donc, pour nous, c'est vraiment le premier lien avec cette société qu'on va découvrir en marchant sur les pas de nos mères. Pour moi, il y a une vraie... Bon, après, c'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle. Je ne m'en cache pas, d'ailleurs, dans le livre. Je suis quelqu'un qui s'est structuré dans sa spiritualité et en même temps qui a été tissé avec la République, avec les problématiques de citoyenneté qu'on a rencontrées, nous, les premières générations issues de l'immigration, qui n'étions pas français. Donc, il y a une exploration à la fois du lien à la société avec ces mamans qui sont là quand les papas vont travailler. C'est elles qui vont tricoter le lien social dans les quartiers, qui vont créer des passerelles entre les différentes cultures. À l'époque où, au début des années 70, les quartiers populaires règnent une très grande mixité à la fois sociale et culturelle, entre les mamans qui viennent d'Espagne, qui ont fui avec leur famille l'Espagne, les Portugais, les Italiens, les Français, les gens de province, etc. Donc nos mères ont cette capacité à aller dépasser le culturel et le religieux pour aller vers l'autre. Et je pense que ça a été quelque chose effectivement de très, très inspirant et en tous les cas qui nous a, nous, aidés dans notre construction intérieure.
À ce moment-là, le mot « diversité » était une réalité, une diversité d'approches, de visions, d'options métaphysiques, d'origines. Et pour revenir à votre parcours particulier, votre propre famille, vous êtes l'aîné des filles, en quelque sorte, donc vous êtes le modèle identificatoire de vos sœurs. Et votre papa, si vous permettez que je présente les choses ainsi, disait de vous que vous étiez la mère adjointe, en quelque
sorte.
L'adjoint-mère. Mère M-E-R-E, hein,
oh,
donc,
oui.
Parce que votre maman comptait beaucoup sur vous.
Oui, c'est vrai que à partir du moment où je suis entrée en CP et que j'ai commencé à écrire et à lire ce qu'elle ne savait pas, c'est vrai qu'elle s'est appuyée sur moi depuis que j'ai 6-7 ans, quoi. Donc c'est vrai que j'ai tout de suite endossé ce rôle, hein. D'ailleurs, être le soutien de sa mère, c'est quelque chose de presque naturel. D'ailleurs, j'étais pas la seule, hein. Je veux dire, toutes les filles aînées ont joué ce rôle auprès de leur mère. Bon, c'est vrai qu'on a une... Et tout d'un coup, on endosse une certaine forme de responsabilité très jeune. On est responsabilisé parce que on est là pour éclairer, pour être le lien, tout d'un coup, matériel. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vrai qu'elle est à la sécurité sociale. On y va à 7 ans avec sa mère. On traduit, on comprend tout de suite, en fait, la complexité de cette société dans laquelle on grandit. Et moi, je comprends très, très tôt, en fait, que la vie, c'est un combat. C'est un combat à la fois inhérent à notre condition sociale et inhérent à notre condition d'immigré. Et ça, c'est vraiment quelque chose que très jeune, en fait, j'intègre et sur lequel, en fait, je vais me construire.
Et la seconde condition complique et aggrave la première.
Oui, on n'a que des facteurs aggravants, en fait. Bon. Il y a rien qui facilite. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est vraiment une richesse parce que je pense que j'aurais pas cette force de caractère, cette capacité de travail si j'avais pas dû jongler tout au long de ma vie entre mes responsabilités familiales, le fait d'être l'aînée des sœurs et d'avoir aussi une forme de responsabilité par rapport au devenir, au chemin qu'on est en train d'ouvrir pour notre fratrie. Donc c'est vrai que c'est... Ben, tout de suite, ça vous propulse, en fait. Ce que je dis dans mon livre, c'est qu'on n'a pas le temps tellement de rêver. On n'a pas tellement l'innocence de l'enfance. On rentre de manière assez brutale dans le monde des adultes.
Alors, Bouchra Azouz, vous dites aussi que, enfin, en dépit de son analphabétisme, vous avez une admiration sans bornes pour votre maman, à la fois sur l'aspect physique, elle était très belle à vos yeux, et elle l'est assurément, mais aussi pour presque sa vision du monde.
Oui, alors je ferai le lien avec un peu la mystique soufie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je comprends quel est le chemin, quoi. Elle trace un chemin, mais et à un moment donné de ma vie, je comprends quel est le chemin. Et c'est vraiment il y a effectivement un rapport assez mystique à ma mère. C'est d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle est passée par des choses qui sont très difficiles, qu'elle nous a pas dit d'ailleurs très très tôt dans notre vie. Donc on s'est construit sur beaucoup de non-dits, sur beaucoup de mystères, sur beaucoup de secrets de famille. Et finalement, petit à petit, d'ailleurs très récemment, j'ai fini par avoir cette histoire, tout ce qu'elle nous cachait, qu'on peut pas révéler parce que ça fait partie de la sphère intime. Mais finalement, on finit par comprendre que tout s'explique. Tout s'explique dans la complexité d'un être. Et c'est vrai que contrairement à certaines de mes amies, j'ai jamais été dans la frontalité avec ma mère. Même si, évidemment, je suis pas dans une espèce de servitude docile, hein. Il y a une critique, j'ai une critique quand même assez radicale, j'ai envie de dire, mais ça passe pas par une relation radicale d'opposition. Je pense que ça nous éclaire et ça nous apporte aussi dans notre propre cheminement. Et ça, pour moi, c'est une dimension spirituelle.
Alors, nous continuons à faire connaissance, et du côté de votre père, là aussi, c'est au moment peu délicat, d'un peu de sa maladie. Vous avez passé 2 ans à côté de lui. Vous vous êtes consacré à être présente et c'est là où vous découvrez l'homme. Il a une connaissance du Coran, il a une culture spirituelle, religieuse, proche de la confrérie soufie, des Boutchichia. Et c'est là aussi où vous découvrez sa sagesse.
Oui, c'est vrai qu'on est ce que je dis, mais c'est pas un terme qui vient de moi. Je l'ai pris à certains philosophes qui enferment ça dans le fait que nous sommes des immémorants. En fait, avant, les gens avaient une connaissance de leur histoire personnelle jusqu'à 3 ou 4 générations. Aujourd'hui, on se rend compte que même à une génération, cette histoire est perdue. Et je pense que notre drame, et qui est lié à cette immigration, c'est lié au postcolonialisme. Nos parents ont vécu dans un Maroc sous protectorat français, donc ils ont connu l'indépendance du Maroc. Et c'est vrai qu'il y a énormément de notre histoire personnelle qui est passée sous silence parce que l'exil, parce que l'immigration, tout ça contient une part un peu obscure de notre histoire et nos parents nous ont jamais raconté. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre de nombreuses années et cette rencontre avec mon père, effectivement, elle se fait quand il est en fin de vie, en fait, qu'il traverse cette épreuve de la maladie. Et c'est là, en fait, que je découvre l'homme derrière mon père. Et que je découvre que finalement, ce que moi je prenais pour de la faiblesse quand j'étais jeune, on est très critique vis-à-vis de nos parents, je pense que c'est inhérent à tout le monde. Et du coup, en fait, je me rends compte que ce que je pensais être de la faiblesse, en fait, c'est une très très grande sagesse. C'est toute une vie où il cultive le renoncement, le détachement. Et tout ça sont des choses, en fait, des notions que je connaissais pas, je les ai connues que très très tardivement. Et le fait que mon grand-père était maître... de cette Zaouïa, dans cette confrérie soufie qui nous vient de Abdelkader Jilali. C'est vrai que tout d'un coup, il y a comme un voile en fait qui se lève sur toute une partie de nous qu'on a en fait d'une manière très intuitive et qui finalement, on commence par poser des noms, des concepts autour de cette manière d'être au monde. C'est vrai que c'est arrivé tardivement, c'est un peu dommage, mais bon, ça a été notre rendez-vous avec notre histoire. Et depuis, c'est vrai que ça a été presque un acte fondateur par rapport aussi à notre recherche spirituelle intérieure, quoi, à notre quête. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on appartient à cette génération où on est des mendiants d'amour, en fait. On est tellement des êtres blessés de ne pas avoir eu connaissance de notre histoire et du coup de cette difficulté de se rattacher à cette histoire, cette grande histoire aussi de ce pays d'accueil qui va devenir notre pays. Et du coup, voilà, il y a des espèces de pointillés qu'il faut combler. Il faut combler par des histoires et c'est ce que j'essaye de faire moi avec mes documentaires, c'est d'essayer de rétablir cette mémoire et de faire en sorte que notre petite histoire, elle rejoigne enfin cette grande histoire, et qu'on a des choses à apporter, qu'on a apporté des choses, que nos parents ont aussi permis de construire des personnes comme moi, mais comme beaucoup d'autres, qui finalement sommes un apport aussi à cette République. Oui.
Alors, peut-être c'est assez tard, mais c'est à ce moment-là que vous découvrez, au contact de votre père, que ça patience devant l'adversité, sa persévérance, son calme intérieur, ben lui vient de valeurs islamiques, mais dans leur coloration, dans leur facture mystique, spirituelle, due à cette confrérie qui a été dirigée par votre grand-père, donc son propre père à lui.
Alors mon grand-père l'a pas dirigé directement, mais il était en fait le plus proche disciple en fait du cheikh en fait. Oui. Qui d'ailleurs lui a consacré tout un recueil de poésie. Donc j'aime à me dire que finalement c'était probablement un très grand homme que je n'ai pas, hélas, pas connu. Et d'ailleurs, pour vous dire, je n'ai eu la photo de mon grand-père que très récemment via... C'est vous dire à quel point cette lacune d'histoire, parce que, je veux dire, quand on essaye de comprendre la société aujourd'hui et cette dérive de l'islam, je pense qu'il faut remonter à notre propre histoire et à tout ce qui nous manque pour essayer de nous raconter un peu notre mythologie, quoi, en fait. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, elle est en souffrance de cette histoire qu'on n'a pas su leur raconter.
Alors, vous pensez aussi que ces dérives au pluriel sont dues aussi en partie à ces histoires lacunaires par rapport à leur passé, à leur patrimoine, à la civilisation elle-même islamique?
Ah oui, ben moi j'appartiens à cette génération qui est contemporaine en fait de cette transition entre l'islam de nos parents, ce que je dis dans le livre, entre guillemets l'islam des darons, de nos pères, et puis cet islam qui petit à petit en 35 ans a complètement phagocyté et remplacé notre islam traditionnel, culturel, qui avait vocation à nous apporter finalement les moyens à la fois intérieurs d'apaisement et à la fois de comprendre la société dans laquelle on vit, nous apporter cette idée simple, c'est que nous ne sommes pas étrangers, quelles que soient les sociétés dans lesquelles nous vivons, que les musulmans peuvent aller vivre dans n'importe quelle société, nous avons les ressources intérieures pour finalement nous adapter, pour trouver des points d'équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on nous fait qu'une seule proposition d'un islam d'opposition, d'un islam qui nous coupe totalement, en fait, et on est absolument perdu. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se construire à la fois dans ce qui est notre culture islamique, de près ou de loin. Je veux dire, quand je dis culture islamique, ça ne veut pas dire qu'on est des religieux absolus, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous traverse. Ça fait partie de notre patrimoine familial, historique, et à la fois on est dans un islam extrêmement rigide, extrêmement malade, j'ai envie de dire, et qui n'apporte absolument pas les points d'apaisement dont la jeunesse a besoin. On est traversé par des problématiques qui nous dépassent tous, et d'ailleurs on le voit bien avec la défiance aux politiques aujourd'hui, donc je veux dire, on appartient à une société qui elle-même est en questionnement par rapport à elle-même, et à l'intérieur d'elle, nous-mêmes, nous ne savons ni d'où nous venons, ni où nous allons. Donc on rajoute de la complexité à la complexité. Et donc je pense qu'on a tout intérêt, effectivement. Alors moi, j'entends beaucoup parler de déradicalisation. Alors c'est probablement pas le sujet, je vais peut-être un peu vite dans...
Nous aurons à y revenir au cours de l'émission, mais je vous laisse développer vos propos.
Mais je dirais que notre plus grand problème, en fait, c'est un problème de culture.
Oui, et peut-être d'éducation aussi, et d'instruction et d'acquisition du savoir, d'apaisement
tout
et de sérénité intérieure.
Je partage totalement.
Vous avez à un moment donné dit « on nous propose un islam figé », mais le « on », c'est qui ? C'est ceux qui sont, parce que vous le dites dans votre ouvrage, ceux qui sont venus d'ailleurs, du Moyen-Orient, parce que finalement, les quartiers, j'utilise ce terme-là, étaient plutôt apaisés, vivants, il y a une douceur de vie en dépit des difficultés sociales, mais à un moment donné, les choses se figent.
Disons que si on reprend notre histoire de transmission de nos parents à notre génération, il n'y a pas de rigidité, parce que la plupart d'ailleurs de nos familles sont issues du Maghreb et donc de cultures plus ou moins soufies, on va dire, hein. C'est quand même un peu la tradition du Maghreb. Donc nos parents n'ont jamais finalement été un obstacle dans leur transmission à notre intégration. C'est-à-dire que nos mères, par exemple, nous ont jamais demandé de nous voiler, hein. Elles-mêmes ne l'étaient pas ou peu, ou en tous les cas, le voile qu'elles portaient était assez semblable de leur voisine française, qui ne sortait pas en cheveux, comme on disait, oui, à l'époque. Et donc, il n'y avait pas un caractère absolument psychorigide, plus une dimension de pudeur, de normes sociales, on va dire. Donc, on n'a pas cette transmission absolument figée d'obligation d'un islam binaire entre le haram, l'illicite, et le halal, le licite. Ça, c'est venu vraiment plus tard, cette espèce d'approche binaire, où finalement, effectivement, dans les années 80, sont arrivés de manière massive dans nos quartiers des pseudo-religieux qui avaient une portée plus politique que spirituelle. D'ailleurs, la spiritualité les intéresse pas, et on le voit bien dans ce qu'ils nous ont apporté. Ce qu'ils nous apportent, c'est un positionnement politique de gens issus du postcolonialisme, on va dire, qui avons un devoir de nous opposer et de ne pas oublier, on va dire, le contentieux qu'ils ont avec la France. Nous, on n'a pas de contentieux, nous, on n'a rien demandé à personne, on est né en France, on a grandi dans une culture populaire qui existait dans nos quartiers. Et donc, on partageait la même culture que la culture ouvrière de nos amis, une culture musicale, une culture des valeurs, en fait, de la République qui s'objectait à l'école, dans l'instruction civique, etc. Donc, on se sentait pas finalement tellement étranger à cette société, ou en tous les cas, on n'avait pas le sentiment que notre culture, notre religion était une entrave en opposition avec cette société, ce pays d'accueil.
En tout cas, ce n'était pas incongru au paysage à la fois culturel et sociale d'une manière générale.
Et nos parents, par ailleurs, étaient de culture très française, finalement. Hein. Je veux dire, nos mères, quand elles sont arrivées en France, si elles portaient le haïk au Maroc, ce qui était le cas de ma mère, c'est-à-dire ce voile traditionnel tout blanc qui recouvrait y compris le visage, quand ils arrivaient en France, ils se mettaient à la mode du pays, quoi.
Auquel cas, elles se dévoilaient et elles enlevaient ce fameux haïk dont vous parlez si bien. Alors, nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec Bouchra Azouz, présidente des ateliers du féminisme populaire, dont nous saurons quelque chose tout à l'heure. Bouchra Azouz est réalisatrice, documentaliste, auteur, écrivain, essayiste, et nous parlons aujourd'hui du contenu de son ouvrage « Fille de Daronne et fière de l'être ». Nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire « Daronne ». Donc cette pudeur avec laquelle on désigne la maman. Avant de poursuivre, j'ai cette anecdote qui m'avait frappé dans les toutes premières pages du livre. Il y a une maman qui va récupérer son fils qui jouait le caïd auprès de ses camarades au commissariat et elle lui donne une gifle. Et lui, le caïd qui finalement accepte et les larmes dans les yeux et il peut pas réagir à la maman, à la daronne.
Oui, c'est dire ce que ça représente dans notre imaginaire, en fait. C'est une espèce de sacralité, hein, la mère. Et c'est vrai que ce garçon qui terrorisait tout le monde, quand sa mère lui inflige ce que je dis dans le livre, une gifle de cow-boy, eh bien, il est plus que le fils de sa mère à ce moment-là, quoi.
Oui, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à propos de la fessée et des gifles qu'on doit donner aux enfants ou pas. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. En revanche, nous passons à la deuxième partie de cet entretien.
Enfin, on appartient quand même à une époque où on achetait les martinets au marché, hein, je le rappelle. Hein. Donc, oui, on a changé d'époque.
C'est vrai que les
donc
choses ont évolué.
Il faut recontextualiser cette scène dans les années 75.
Tout comme il faut savoir relativiser les passages coraniques à leur contexte et ne jamais les utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Sinon, on prend en otage le texte.
Bravo, excellent.
Et là, pour cette gifle-là de cow-boy, il faut savoir la relativiser à la décennie des années 70 du siècle écoulé.
Exactement.
Bouchra Azouz, revenons à vous maintenant, je ne voulais pas le dire d'emblée. Comment se fait-il que la jeune demoiselle est prise de culture cinématographique, de musique? Vous avez vu vos frères jouer de la guitare, du rock, eux-mêmes admiratifs de tout ce que faisait un Chuck Berry ou un Elvis Presley. Vous avez décidé du jour au lendemain de porter le voile et de vous présenter comme la première fille de non seulement de l'établissement, mais je crois même de la ville à avoir porté ce voile à la rentrée 1986.
Oui, alors c'est compliqué d'expliquer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on n'a pas résisté, hein, le fait est, à cette vague en fait de l'arrivée de ce que j'appelle les frérots dans les quartiers, quoi. Il faut savoir que ce qui nous a poursuivi, en fait, cette question insoluble qu'on a traînée comme ça pendant des décennies, c'est qui sommes-nous dans cette société ? Et ça a été une question qui revenait régulièrement, d'ailleurs, dans les médias avec les différents événements qu'on vivait au travers des quartiers, des émeutes. Il faut aussi dire que on est dans une société qui elle-même essaye de dépasser ce drame de la guerre d'Algérie, de la colonisation, et qui a beaucoup de mal avec nous, les petits, j'ai envie de dire entre guillemets, les petits bougnoules, quoi, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous appelait, ou en tous les cas, nous, on s'est construit quand même sur cette idée d'un racisme extrêmement violent, quoi. D'ailleurs, je dis dans le livre, à un moment donné, au moment où on doit apprendre la concordance des temps, moi j'apprends toutes les déclinaisons, formes verbales et non-verbales du racisme, tellement c'est quelque chose en fait qui nous... et qui est assez compliqué parce qu'en fait, quand on est gosse, en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas que dans le regard des autres, on peut être jugé d'avance. Donc, on ne comprend pas que des préjugés peuvent exister. Et du coup, on se construit sur des incohérences. Et moi, ça m'a beaucoup perturbée quand j'étais gamine, parce que pendant, je me souviens, toute mon année de CP, je faisais d'horribles cauchemars, en fait. c'était assez dramatique parce que ça entravait mon apprentissage. Et en fait, j'ai fini par comprendre que toutes ces questions étaient extrêmement nocives, en fait, dans l'esprit d'un gamin. Et du coup, à l'adolescence, on continue avec ces incohérences, en fait, et ce besoin de se construire d'un point de vue identitaire. On est qui, finalement? On n'est pas tout à fait nos parents, et on n'est pas tout à fait cette société dans laquelle on s'improvise, enfin, on essaye de trouver notre place. Et à un moment donné, la proposition, finalement, de nous dire, bah, finalement, vous êtes des musulmans, vous appartenez à cette grande nation qu'est l'islam, dans laquelle il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence entre les gens, entre pauvres et riches, entre noirs et blancs, entre marocains et algériens, qui était quand même aussi une problématique de notre enfance, puisque le conflit entre le Maroc et l'Algérie a habité aussi une bonne partie de notre enfance. Les mariages mixtes, y compris entre Marocains et Algériens, étaient très compliqués. Donc, on était absolument perdus. Et finalement, cette solution que nous apportaient clé en main les islamistes a été quelque chose qui nous a pas mal séduits, finalement. Et même une famille comme la mienne, dans laquelle mes frères étaient de brillants étudiants, éclectiques, à la maison, comme vous le disiez, tous les courants musicaux y passaient. Moi-même, j'étais au conservatoire et je faisais du chant lyrique. Donc, j'allais avec mon voile, toute vêtue de noir, chanter Mozart. Ça ne me posait aucun problème. Mais intérieurement, j'ai envie de dire que ça a permis, pour un certain temps, de combler cette question de l'identité. Mais ce ne fut qu'un passage dans ma construction, puisque cette solution, je vais me rendre compte au fil des années que finalement, elle n'apporte rien et qu'elle ne fait qu'aggraver ma situation. Donc, la solution n'était pas dans la religion.
Oui, mais comment ça s'est opéré? C'est suite à un discours, suite à un endoctrinement, suite à une incitation, ou c'est une adhésion d'abord intérieure? Comment ça s'est passé? La décision a été prise.
C'est très insidieux. J'ai envie de vous dire, c'est comme un paysage éclatant de lumière, et le lendemain matin, il est envahi par la brume, et vous n'y voyez pas à 5 mètres. C'est exactement ça, en fait. On n'a pas, moi, j'ai jamais rencontré d'idéologue dans les quartiers. Et du reste, ma cité n'a jamais été une cité ghetto. Donc, on n'a pas eu, d'ailleurs, dans ma cité, on a été la seule famille maghrébine à s'islamiser, entre guillemets. Tous les autres, en fait, ont été très indifférents à notre spleen religieux, j'ai envie de dire. Donc, c'est très insidieux, en fait. Même en essayant de creuser dans ma mémoire, j'ai pas le souvenir même d'avoir été dans des mosquées. C'est pour vous dire que, finalement, cette idée, elle est arrivée. Elle est arrivée comme vient une rumeur, comme vient un spectre. Et puis, vous commencez à voir... Alors moi, le souvenir dont je parle, qui est le plus éclatant dans ce que je peux peut-être identifier comme quelque chose qui m'a peut-être un peu poussé, qui m'a fait franchir le pas vers le voile, c'est un jour un exposant au centre commercial, un Français converti, qui jouait de la sitar de manière très détachée dans son stand. Et puis, il avait amené tout un tas de choses relatives à la religion, des posters de la Mecque, des livres religieux, des voiles, des tapis de prière, de l'encens, des chapelets, etc. Et puis, finalement, tous les livres que je regardais, la femme était voilée, donc... Pour nous, finalement, le retour à nos sources, à nos origines, devait passer par un marqueur vestimentaire, quoi. Et il y a, de toutes les manières, je pense, quand on est ado, on a besoin de montrer extérieurement ce qu'on pense intérieurement. En tous les cas, ce à quoi on adhère. D'ailleurs, c'était aussi un peu l'époque des punks. J'avais des copines qui étaient punks, d'autres qui étaient un peu gore, on va dire. Et puis moi, il fallait que j'aie mon habit, mon costume, qui montre de manière claire et précise à tout ce monde extérieur que je suis, moi, Bouchra, une femme musulmane, une jeune femme musulmane, et fière de mes origines. Et en plus, je ne suis pas une femme soumise et pas une analphabète. Et je vais d'ailleurs pousser, ça va être un peu le moteur aussi de mes études.
Et c'est une revanche aussi à propos du prénom que vous affirmez haut et fort maintenant, puisque quand vous étiez en classe du CP, certains l'écorchaient et ça vous mettait mal à l'aise.
C'est vrai que s'appeler Bouchra, c'est pas facile, quoi. Je veux dire, j'aurais préféré m'appeler comme mes sœurs, Salima, Yamina. Enfin, ma mère a eu beaucoup d'imagination pour mes sœurs et moi, elle m'a flanqué ce prénom. Et finalement, j'ai fini par comprendre aussi que Bouchra, en fait, c'est un joli prénom, quoi, que ça voulait dire la bonne nouvelle, que
c'est l'évangile étymologiquement.
C'est l'évangile étymologiquement, exactement. Et d'ailleurs, moi, ça me plaisait assez puisque j'ai fait mes études dans une école catho privée et j'ai toujours eu ce besoin, en fait, de relier mon éducation, entre guillemets, chez les sœurs et mon éducation religieuse dans ma famille. Donc, c'est vrai que quand j'ai découvert que ça voulait dire évangile, j'étais très contente.
Oui, alors, vous mettez ce voile. Étonnamment, vous continuez à aller pour le chant, la musique, le chant lyrique. Ce musulman que vous avez vu dans un stand jouait aussi de la sitar. C'est quoi? C'est du bricolage? Pour certains, la musique serait illicite, mais là, elle était plutôt admise. Donc, on n'est pas encore dans une approche radicale ou un radicalisme encore frelaté.
Oui, c'est vrai qu'en fait, on a beau vouloir mettre des costumes, on ne change pas intérieurement, quoi. Évidemment que ce qui a été très structurant dans ma famille, ça a été l'éducation de mes parents. Ça a été le fait aussi qu'on avait un frère extrêmement brillant, mon grand frère, qui amenait des livres. D'ailleurs, c'est lui qui amène Razali, Ibn Arabi. Il a une culture extraordinaire. Donc, et d'ailleurs, j'avais pas beaucoup d'objections quand ma mère m'envoyait ranger la chambre de mes frères, puisque évidemment mes frères ne faisaient pas leur chambre. C'était dévolu aux filles. Mais moi, j'aimais beaucoup finalement aller dans la chambre, aller ranger leur chambre, parce que la contrepartie, c'était la lecture et écouter la musique. Et par ailleurs, tous les instruments de musique étaient aussi dans la chambre de mon frère. Donc, en fait, tout ce paradoxe, parce qu'on est un paradoxe, en fait, on est une espèce d'entité hybride. On n'est ni tout à fait nos parents, comme je le disais, ni tout à fait cette société. On est quelque chose dans l'entre-deux. On est en train d'inventer quelque chose. Et ça prend du temps de construire cette nouveauté sociologique, culturelle. Et du coup, on bricole effectivement avec cet islam. Alors, on pense que ça va résoudre nos problèmes d'identité, mais finalement, on va se rendre compte très vite que finalement, ce mouvement, c'est pas un mouvement de sagesse spirituelle, c'est un mouvement, j'ai envie de dire, presque dire belliqueux, c'est arrivé jusqu'au bord de mes lèvres. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, quand je vais à la fac, il y a une étudiante en médecine qui s'improvise un peu notre religieuse en chef et qui va nous dire, non mais la musique est strictement interdite, ça c'est strictement interdit, et la manière dont vous portez vos voiles n'est pas du tout conforme. On voit trop vos cheveux, etc. Et là, je commence à me dire, mais en fait, elle est gentille, cette nana. Mais enfin, bon, moi, j'ai grandi avec Claude François, avec Gérard Lenormand. Enfin, elle est complètement à l'ouest de notre construction culturelle. Et c'est là que je commence petit à petit à remettre en question et à me dire, mais finalement, où est-ce que j'ai envie d'aller, quoi, avec ce voile?
Et ça a pris combien de temps?
C'est très long. C'est très, très long. Je pense que ça m'a pris au moins 15 ans.
Ah oui? Tout en étant voilée?
Ah oui, 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 oui. Mais c'est très difficile, en fait, de se libérer du voile. C'est pas quelque chose de simple parce que, comme je vous le disais, on a une très grande lacune religieuse. Et d'ailleurs, ma dimension féministe m'oblige, en tant que croyante, à aller aussi questionner, confronter, interroger cette religion d'un point de vue de la femme que je suis. Une femme qui aspire à être une femme émancipée, à être libre, à ne pas vivre sous le diktat de croyances masculines dont le seul objectif est de m'enfermer dans un rôle. On n'a pas tout ça. Enfin, je veux dire, il faut bien comprendre que nous n'avons pas les outils pour construire cette demeure qui est la nôtre.
Oui, Bouchra Azzouz, vous avez cité à l'instant deux grands noms de la tradition et de la civilisation islamique, Al-Ghazali, l'Al-Ghazali des latins, et Ibn Arabi, le grand mystique, le grand métaphysicien, docteur Maximus, comme disent les latins. Vous les avez étudiés ou vous avez simplement effleuré un peu leur production? Ou c'est, vous voyez uniquement vos frères ou votre frère les pénétrer, si je puis dire, mais vous n'avez que de cela que l'écume.
Oui, j'ai l'écume et je l'ai bien exploité, cette écume, je pense.
Bien. Pardonnez-moi de vous poser la question comme ça aussi directement. Vous avez porté le voile à un âge où les jeunes demoiselles sont plutôt enclines à la coquetterie, à la découverte de l'altérité de genre. On est dans une relation de séduction avec les garçons, etc. On ne vous avait pas culpabiliser à l'idée que si un garçon voit une touffe de vos cheveux, lui, il fantasme et vous, vous allez périr par le feu de l'enfer?
Non, non, non. Moi, c'était pas du tout mes questionnements, ça. D'ailleurs, quand finalement, on commence à interroger cette idée de pourquoi porter le voile, et effectivement, qu'on se confronte à cette première argument, on se dit, mais c'est pas possible, on est complètement cinglé, quoi. Non, non, moi, j'ai quand même assez une haute estime de moi, pardon, mais non, je veux dire, quand on est ado, on essaye de réparer, en fait. On est dans la réparation, adolescent. Moi, j'ai grandi quand même dans une famille où il y a beaucoup d'interdits. Enfin, mon père est très libéral et ma mère est très très traditionnaliste, en même temps très ouverte. C'est un paradoxe, ma mère. Et ce qu'elle veut, son objectif, c'est que ses filles fassent des études. Elle refuse absolument l'idée qu'à un moment donné, on va s'enfermer justement dans des traditions. Finalement, je me suis rendu compte tardivement que ce qu'elle nous empêchait, en fait, c'était simplement pour baliser cette espèce de trajectoire d'émancipation par les études, ce dont elle avait été privée. Elle est obsessionnelle de ça, ma mère. Et du coup, bah, ça fait une adolescence qui est quand même assez malheureuse, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit d'avoir des amis. Nos petits camarades de la cité avec qui on a grandi au patronage, à l'adolescence, il devient interdit de leur adresser la parole, quasiment. Donc, il faut devenir asexué, en fait. Je pense que le voile, pour moi, c'est plus ça que de se dire, ma chevelure va aller. C'est une manière, finalement, de dire à mes amis, bah, écoutez, moi, je suis une religieuse. Finalement, on comprend la démarche d'une religieuse, de se dire, une religieuse, finalement, elle n'est pas abordable. C'est pas quelqu'un qu'on va aller dragouiller. On comprend qu'elle a mis un certain nombre de barrières un peu rigides dans sa manière de vivre. Et je pense que c'était plus ça, ma démarche. Et en même temps, très paradoxalement, à l'adolescence, la féminité devient un problème. Pourquoi ? Parce que la féminité est tout de suite une suspicion de séduction. Donc, il y a beaucoup de violence. Enfin, moi, il n'y en avait pas tant que ça dans ma famille, mais je me souviens que mes copines maghrébines de la cité, c'était extrêmement violent, quoi. J'avais une copine, à 15 ans, elle a fait une tentative de suicide, tellement le moindre fait et geste était une suspicion de transgression par rapport aux règles de la famille, et pas tellement religieuse d'ailleurs, hein. Donc, en fait, moi, le voile, en fait, ça m'a permis de me féminiser. J'étais un garçon manqué et finalement le voile m'a permis de m'habiller en robe sans qu'il y ait une suspicion, c'est-à-dire ça m'offrait quand même un espace de liberté. Je pense que c'est difficile pour les féministes de m'entendre dire ce genre de choses parce que tout d'un coup elles prennent ça comme un espèce de...
C'est mon choix.
Oui, c'est mon choix, mais le choix doit être un peu rationnel et avoir un souci aussi par rapport à l'organisation sociale. On a des choix par rapport à une société, à son histoire, par rapport à un mouvement global d'émancipation des femmes. Et ça, c'est ce que j'ai compris finalement. Et la raison pour laquelle vraiment je me suis mis dans un processus de retirer le voile, c'est la confrontation à la fac avec ma prof de physique, à qui je vais poser une question en amphi, qui refuse de m'adresser la parole. Elle me regarde pas, elle regarde à côté et elle me dit « Les filles de votre espèce, je ne leur adresse pas la parole. Si vous voulez me poser une question, vous le faites par écrit et je verrai si je daigne y répondre. » Et la violence de ça, je veux dire, quand vous êtes une toute jeune étudiante de 18 ans, vous prenez ça en pleine face, c'est super violent, hyper violent. Mais en même temps, je me suis dit « Si cette femme réagit aussi violemment, c'est que probablement ce que je lui renvoie est extrêmement violent. »
Violence symbolique.
C'est là que j'ai essayé, en fait, de commencer mon cheminement pour comprendre. Mais ça prend du temps, hein. On n'est pas dans un film où tout d'un coup vous avez un incident déclencheur et en 3 scènes, l'affaire est réglée. Ça m'a pris presque 10 ans à partir de ce moment-là.
Il était une fois. Toutes les belles histoires commencent comme ça. Alors, il était une fois une vie, un regard sur le monde. Aveuglé par les larmes, je croyais ne rien voir. Mais la musique m'a tenu un langage sans paroles. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le cœur. Et parce qu'à force de vivre, les peines, les joies, les rêves et les désillusions s'amassent comme l'écume, alors un disque. Animé par la foi d'un idéal, choisir de ne pas se taire, chanter, jusqu'à ce qu'amour s'ensuive.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de féminisme avec la présidente des ateliers du féminisme populaire, la réalisatrice et documentaliste Bousra Azouz. Bousra Azouz qui est aussi auteur, écrivain, essayiste. J'ai pas dit écrivaine, hein. Vous voyez bien que je ne féminise pas les titres. Et nous parlons de votre ouvrage, Bousra Azouz, fille de daronne et fière de l'être. On a vu comment, nous avons vu ensemble comment vous vous êtes voilée et puis ce processus de dévoilement a commencé. Peut-être une question, quel est l'impact ça a été sur vos sœurs en famille? Elles vous ont suivi, elles n'ont pas suivi, quelle a été leur attitude puisque c'était vous-même qui avez pris l'initiative en premier d'être non seulement la première voilée de la famille mais aussi de votre ville.
Alors ma sœur qui vient juste après moi s'est voilée aussi, pas en même temps quoi. Moi je me suis voilée au lycée, elle s'est voilée quand elle est entrée à la fac, mais plus contrainte j'ai envie de dire, hein. Elle s'est sentie obligée de se voiler. Par contre j'ai une sœur, donc ma troisième sœur, qui est une espèce de d'atome en fusion. Pour ma mère, absolument ingérable, donc le voile. Non, elle était complètement à l'opposé de moi, en fait, ma sœur. Autant moi, j'essayais d'être dans une espèce de rigueur, autant elle voulait croquer la vie à pleines dents, elle voulait vivre pleinement sa jeunesse, et du coup, elle a bataillé, elle a mené sa bataille pour accéder à ses choix. Et puis, ma plus jeune sœur, qui est devenue chanteuse, qui est Walène, elle a été plus, j'ai envie de dire, traversée vraiment, elle, d'une manière très intellectuelle. Et puisqu'elle s'est rattachée, elle, à la Tariqa Boutichia, donc à la Zawiya à laquelle était rattaché mon grand-père.
On parle là d'une confrérie soufie.
Voilà, la confrérie soufie. Et donc, elle est vraiment dans la mystique avec, du reste, son mari, qui est Abdelmalik, que tout le monde connaît, et qui est lui-même rattaché à cette confrérie. Donc, voilà, elle a choisi vraiment... de nous tous, la voie vraiment la plus mystique.
Le processus de dévoilement commence. Comment vous l'enlevez, du jour au lendemain ou d'une manière progressive? Vous avez raconté cette violence de votre professeur de physique, qui d'ailleurs n'aurait peut-être pas dû vous parler comme ça en plein amphithéâtre.
Probablement, oui.
Mais bon, et du jour au lendemain, vous venez à l'amphithéâtre dévoilée et là, elle vous adresse la parole.
Ah non, justement, non, pas du tout. Non, je me dévoile absolument pas. Non, je me dévoile pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est que... Bon, à l'époque, j'avais commencé à faire des études de médecine. Ensuite, je bifurquais sur un DEUG de physique. Et quand je passe en fait à Jussieu, je profite de cette transition pour ne plus porter mon voile de manière islamique. Je me couvre toujours les cheveux. Et en fait, je fais ça, pourquoi? Parce que je me libère aussi un peu du poids de tous ces étudiants qui sont du Maghreb et qui sont vraiment des islamistes et qui sont un peu nos surveillants à la fac. Enfin, je veux dire, on était quand même... pas tellement libre de nos mouvements. Je me souviens d'ailleurs un jour, un de ces fondamentalistes était venu après concertation de l'ensemble des musulmans qui dirigeaient à la fac, venu me dire en amphi qu'ils estimaient que mon voile était un peu trop léger, un peu trop... et donc, ils me donnaient la préconisation de me voiler de manière un peu plus rigoriste. Et du coup, j'ai profité de partir à Jussieu dans l'anonymat de cette foule pour porter mon voile carrément autrement, parce que je voulais plus du tout que ces mecs-là, en fait, m'identifient comme une religieuse.
Bien. Bousra Azouz, c'est quoi pour vous un voile islamique et un voile... peu islamique? Y a-t-il des normes? Est-ce que c'est écrit? Puisqu'il n'est dit nulle part qu'il y a des critères de voile dit islamique.
Non, mais à partir du... comme on dit, il suffit de le dire. Hein. À un moment donné, quand vous avez un courant qui décide que le voile... Et d'ailleurs, on le voit bien avec l'évolution. Moi, quand j'ai commencé à porter le voile, je portais ce qu'on appelait le hijab. C'était juste un voile et on s'habillait absolument comme on voulait. Et petit à petit, plus on devient rigoriste, plus les courants prennent aussi du pouvoir, plus ils imposent une manière de s'habiller aux femmes. Et je pense que c'est une manière d'ailleurs d'évaluer leur emprise dans une société, puisque quand vous avez un marqueur extérieur, ça vous permet de savoir si votre idéologie avance ou elle avance pas. Et donc, le voile islamique, on voit bien, plus c'est austère, plus c'est islamique, j'ai envie de dire, en fait.
Bon.
Mais néanmoins, nos mamans qui se voilent, c'est pour ça que j'ai envie de dire, on doit aussi graduer notre approche du voile et les attaques qu'on a. Parce que je déplore quand même qu'on se focalise sur les femmes, on passe son temps, notre temps à acculer les femmes qui portent en elles quand même beaucoup de contraintes, beaucoup de facteurs d'oppression. Et on les aide pas finalement dans leur processus d'émancipation. Et finalement, on s'attaque pas aux idéologies. Et moi, je pense que c'est là qu'il faut concentrer nos efforts.
Alors, comment l'autre voile un peu léger est parti, nous n'allons pas nous y appesantir outre mesure. Vous l'avez du jour au lendemain aussi enlevé, même à Jussieu.
Non, je ne l'ai jamais enlevé pendant toutes mes années de fac. En fait, je n'ai pas enlevé mon voile, j'ai vraiment retiré. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a oublié de le dire, mais la première fois que je sors voilée avec mon père, il refuse que je monte dans sa voiture. Mon père était absolument un anti tout ce qui était
ostensible.
Voilà. Pour lui, ça a été une désolation absolue. Une source d'une très très grande tristesse en lui, le fait de voir ses enfants, ses fils, dans lesquels il avait investi beaucoup d'espoir. Et il avait raison, dans le fond, puisque mes grands frères, qui sont tous les deux docteurs en maths et en physique, n'ont jamais réussi, finalement, à trouver leur place professionnellement. Pourquoi ? Parce que cet islam radical, auquel on a adhéré un temps, les a poursuivis, finalement, les a condamnés. Et ça a été vraiment, je crois, le drame de mon père. Et finalement, j'ai fini par retirer le voile dans les dernières années de vie de mon père.
Ce qui l'avait rasséréné, réjoui.
Oui.
Bon.
Et mon mariage aussi, il avait beaucoup satisfait.
Alors, venons à votre mariage. Vous parlez d'un franco-tchèque, en tout cas, c'est un citoyen français. Dites-nous, s'il vous plaît, quitte à ce que je déroge un peu au cours normal de cette émission, comment la rencontre a-t-elle été faite et comment vous avez eu finalement l'assentiment de vos parents et notamment de votre père?
Je pense que c'est un indicateur fort de l'évolution à la fois, j'ai envie de dire d'abord de ma mère, parce que mon père, en fait, pour lui, ça n'aurait jamais posé de problème, mais plus de ma mère qui, finalement, elle aussi, au terme de ses 40 ans de vie, enfin 40 ans, j'exagère un peu, mais en tous les cas, à ce moment-là, 35 ans de vie en France, elle a vu aussi arriver cet islam radical qui l'a toujours exaspérée au plus haut point. Finalement, elle se dit, mes parents se disent, oui, on est là, on fait partie de ce pays. Et puis, finalement, que nos enfants épousent des noms marocains ou des noms arabes, ce n'est pas un problème, finalement. Donc, je pense que ça marque quand même le fait que tout le monde a évolué, en fait, dans cette famille.
Les quelques minutes qui nous restent, nous les passerons à évoquer ce que vous faites dans ces ateliers du féminisme populaire. Y a-t-il un féminisme populaire, un féminisme de classe? De quoi s'agit-il au juste?
Je pense qu'il y a un féminisme qui s'adapte aux contraintes qui se posent à lui. Et je pense que les femmes, en fait, elles sont naturellement dans cette démarche. Le féminisme, pour moi, c'est pas une idéologie, en fait. C'est simplement d'être confrontée dans la réalité de son quotidien à des freins qui sont liés au fait que nous sommes des femmes, à la fois des femmes, à la fois issues de l'immigration, à la fois des quartiers populaires, des classes populaires. On accumule un certain nombre de facteurs oppressifs et très naturellement, les femmes, et c'est ça que je trouve extraordinaire, dans la capacité de dépasser toutes ces contraintes, d'inventer des solutions, des stratégies de contournement quand la société ne nous est pas favorable. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même si on a beaucoup fait avancer le droit, je pense que l'accès au droit est en panne. Et les ateliers du féminisme, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des dispositifs pour centraliser l'ensemble des politiques publiques qui existent pour que les femmes, en arrivant chez nous, elles n'ont qu'un guichet unique et elles peuvent définir une trajectoire d'émancipation, trouver les moyens de leur autonomie en passant par des ateliers, que ce soit des ateliers coaching, le plan d'accompagnement à l'autonomie des femmes qui permet à des femmes de gagner en moyenne 15 ans dans un parcours. Pourquoi ? Parce que simplement on leur facilite et on leur ouvre la voie par rapport à des, par exemple, des validations d'acquis d'expérience qu'elles ne connaissent pas, d'accès à des formations, etc.
Que pensez-vous alors de celles notamment qui parle du féminisme islamique et que, revenant à cette expression, c'est mon choix, et que je m'épanouis et que je retrouve ma liberté au sein de la sphère islamique, voire islamiste, avec cette religion un peu radicalisée.
C'est un sujet sensible, on va dire. Moi, je pense que les femmes, partout où elles sont, qu'elles soient musulmanes, athées, agnostiques, ce que vous voulez, je pense que de toutes les façons, les femmes sont motrices du progrès. Elles n'ont pas le choix. Partout où elles sont, elles n'ont pas le choix, donc elles sont obligées. Ce que je dis très souvent, c'est que les femmes, elles dépasseront toujours la ligne rouge. Et on le voit, par exemple, dans mon film « Nos mères, nos daronnes », que j'ai co-réalisé avec Marion Stalins, qui est accessible d'ailleurs sur YouTube pour nos auditeurs s'ils souhaitent le voir. J'interroge en fait nos mamans qui, au début des années 70, sont de jeunes femmes qui enfantent chaque année, et à deux pas de là se passe le procès de Bobigny, le procès pour dépénaliser l'avortement. Et ma question de départ, c'est de me dire, est-ce que nos mères, finalement, étaient sensibles à ces sujets, ou étaient-elles totalement hermétiques? Est-ce que leur religion les empêchait de partager ce destin commun de femmes? Et à ma grande surprise, toutes les femmes que j'ai rencontrées, y compris ma mère, qui est une femme religieuse, très traditionnelle, finit par m'avouer qu'elle-même a avorté. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas d'un neuvième enfant alors qu'elle en avait 8, on peut se dire. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même étant des femmes musulmanes et pratiquantes, finalement cette ligne rouge que les hommes ne dépasseront jamais, les femmes la dépasseront. Et donc elles sont en capacité de faire bouger les lignes. Alors le féminisme islamique, je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire par là des femmes musulmanes qui revendiquent le fait d'être des femmes voilées et en même temps émancipées? Pourquoi pas? Moi, je partage pas ce féminisme-là. Je partage un féminisme universel, humaniste. Hein,
qui n'a pas besoin d'épithètes.
Et qui n'a pas besoin d'épithètes, mais en tous les cas, qui essaye de faire bouger au niveau des politiques pour que toutes les femmes, en revanche, quelle que soit leur confession, leur degré d'émancipation, puissent avoir accès à leurs droits.
Pour cela, Azouz, nous arrivons au terme de l'émission. Quel est le message pour votre propre fille? D'ailleurs, vous l'avez prénommée comment?
Sakina.
Sakina. Alors
la
là,
quiétude.
La quiétude. La shirina en hébreu, c'est la quiétude, la sérénité. L'ataraxie, aurait dit les Grecs, l'absence de trouble intérieur. C'est ça votre message pour elle. C'est aussi sa liberté et sa dignité d'être humain.
Je finis mon livre effectivement sur une lettre ouverte à ma fille. Et j'ai envie de dire, et ça peut-être que je rejoins aussi un peu la mystique soufie, c'est que nous ne sommes que des êtres humains, finalement. Dieu nous a pas fait anges, il nous a pas fait autre chose que des humains. Et à cette humanité, il a mis en face sa miséricorde et sa très grande clémence. Donc j'ai envie de dire à ma fille, détache-toi de toute culpabilité, hein. Vis ta vie, fais tes choix. Tu te tromperas très certainement, comme moi-même je me suis trompée, mais ta mère sera toujours là parce que elle aura toujours ses bras grands ouverts. Hein. Pour ne ni te juger, ni te fustiger, mais t'accompagner. La vie est un long chemin.
Accompagné par la miséricorde et la clémence, il n'y a pas de meilleur mot pour ça.
Qui est d'ailleurs le prénom de ma mère, Rahma.
C'est parfait. Entre la miséricorde et la quiétude, nous avons passé cette heure ensemble avec vous. Merci Bouchra Azouz. Je rappelle simplement que vous êtes présidente des ateliers du féminisme populaire, réalisatrice, documentaliste, auteur de nombreux ouvrages, et nous avons parlé du livre « Fille de Daronne et fière de l'être » paru chez Plon. Et nous étions sur France Culture, question d'islam. Et vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Bastien Varigaud. Et la réalisation est toujours assurée par l'ami Franck Lila.
Comme mes bras autour de ton cou avant, et beaucoup disent que la douleur guérit avec le temps. mais maintenant, je sais bien qu'il manque.